Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vincent Colson au micro. L'école sera au menu de notre émission ce soir. Comment renouer avec le plaisir et le désir d'apprendre? Comment améliorer la formation des profs ou encore la gouvernance des écoles? Ces questions, les différents acteurs du secteur ont essayé d'y répondre pendant un an dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence. Le groupe central doit remettre son rapport final au gouvernement ce mardi 3 mai, mais des éléments déjà fuités dans la presse cette semaine. Nous avons donc décidé de prendre la balle au bond et de réagir sur les premières réformes évoquées. Et on va le faire avec nos deux invités ce soir. Tout d'abord, Johanna de Villers, chargée de mission à la cellule études et stratégies du Centre d'Action Laïque. Et enfin, avec Benoît van der Meerschen, bonsoir, secrétaire général adjoint du Centre d'Action Laïque. Donc bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Alors, Benoît van der Meerschen, déjà ce pacte pour un enseignement d'excellence, vous en pensez quoi?
Mais moi, je pense que c'est une excellente initiative. Vous savez, notre enseignement est porté à bout de bras par des acteurs extraordinaires, mais en même temps, il n'y a pas besoin d'enquête PISA pour le dire, les acteurs le vivent eux-mêmes, il y a des problèmes et sans doute que une architecture scolaire héritée du pacte scolaire fin des années 50, est-ce qu'elle convient encore en 2016? On voit bien les problèmes avec les écarts de niveau entre écoles, les écarts selon l'appartenance sociale, l'échec scolaire, privatisation, explosion du coût du soutien scolaire, pénurie d'enseignants, leur solitude, j'en passe. Donc à un moment donné, rebattre les cartes est plutôt positif parce que si l'enseignement est un droit, c'est aussi un devoir pour nos autorités publiques, à savoir organiser un enseignement de qualité qui peut satisfaire à tous.
Alors, il faut le dire tout de suite, le Centre d'Action Laïque n'est pas partie prenante des discussions, il n'a pas été invité au débat, mais est-ce que vous savez un peu comment se déroulent les discussions au sein de ce pacte?
Au-delà des fuites dans la presse, nous avons des contacts avec différents acteurs qui, eux, participent à ce grand processus dynamique. J'ai envie de dire, l'intérêt d'un pacte pour un enseignement d'excellence, qui a été prévu par la déclaration de politique communautaire, c'est d'arriver pour une fois à se projeter dans l'avenir, à imaginer plus loin que le bout d'une législature, mais à vraiment construire un avenir en se projetant sur plusieurs années, voire 10-15 ans. Avec aussi un intitulé pacte d'excellence, excellence, je ne suis pas sûr que c'est vraiment ça dont on devait rêver, mais plutôt une école solidaire. Mais néanmoins, comme on sait que ce qui est en train d'encore régler, structurer notre paysage scolaire, c'est le pacte scolaire, imaginer un pacte voulait bien dire qu'on a envie de rebattre les cartes de manière un petit peu plus profonde. Et à ce titre, je trouve que c'est vraiment intéressant. Maintenant, on sait que la situation politique a évolué, et dans le grand public, ce pacte apparaissait comme principalement porté par Madame Milquet, hein. On sait que c'est un tempérament et qu'elle peut déplacer des montagnes et qu'elle s'est jetée à corps perdu dans ce projet, ce qui est à saluer. Mais au-delà de ça, il y a tout un travail qui a été fait derrière, porté par tout le gouvernement, un processus qui est porté aussi par des gens qui sont extrêmement compétents, inventifs et des travailleurs acharnés. Je pense aux deux pilotes de ce pacte, Frédéric Delcor et Laurent Swert. Il y a des acteurs investis et une dynamique propre qui pourra peut-être porter des résultats au-delà de ce qui sera décidé par le gouvernement, mais parce que tout le monde s'est rencontré, a discuté, a échangé, peut-être que dans les années à venir, ça pourra encore porter ses fruits. Encore faut-il que tout le monde accepte de jouer le jeu.
Parce que pour vous, certains ne jouent pas ce jeu ?
On sent bien certaines tensions au sein des acteurs du pacte, mais surtout de manière générale, une tendance assez lourde à vouloir privatiser encore plus notre enseignement. Or ici, au Centre d'Action Laïque, nous restons persuadés que l'enseignement public a une valeur ajoutée que d'autres acteurs n'ont pas, certainement en termes d'égalité qui peut être offerte aux différents enfants. Et donc pour nous, l'enseignement doit rester évidemment une compétence publique et il faut faire attention à ces tendances croissantes à la privatisation.
Alors juste d'ailleurs une précision, c'est qu'effectivement dans ce groupe central, on a parlé des différents acteurs. Alors juste pour les citer, on a effectivement des représentants des syndicats, des représentants des parents, des représentants des différents pouvoirs organisateurs. Donc on a toute une série d'acteurs très présents sur le terrain. Alors on va en venir évidemment au fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans ce pacte. Alors plusieurs mesures ont déjà été évoquées dans la presse cette semaine. On le dit évidemment, le groupe central doit rendre son rapport final mardi seulement, mais on sait qu'on évoque des journées plus longues, plus de congés scolaires, plus d'autonomie pour les écoles, en tout cas des formations différentes pour les profs. On parle aussi du tronc commun. Alors on va peut-être commencer sur cette question du tronc commun. C'était une revendication du CAL. C'est le tronc commun plus long. On parle ici d'un tronc commun jusqu'à la troisième secondaire. Vous en pensez quoi ? Oui, effectivement, cette idée d'un tronc commun est réfléchie depuis des années au sein du CAL et en collaboration avec le CEDEP, qui rassemble maintenant 14 associations autour de l'école.
Le CEDEP, peut-être rappeler ce que c'est ?
Le Centre d'études et de défense de l'enseignement public. Qui réunit aussi les syndicats, les représentants des parents, certains pouvoirs organisateurs et d'autres acteurs partenaires autour de l'école. Et nous avons beaucoup réfléchi au sein de ce groupe sur la pertinence du tronc commun, du renforcement du tronc commun. Effectivement, c'est quelque chose que nous portons et que nous soutenons, parce qu'on sait très bien que d'abord dans les pays où le tronc commun est allongé, l'équité, l'égalité en est augmentée. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'existence des filières, l'orientation précoce des élèves est source d'inégalité. Comment est-ce qu'on peut savoir si à 12-13 ans, un enfant aura telle ou telle compétence à 18 ou à 20 ans ? Donc c'est beaucoup trop tôt. Donc cette idée d'allonger et de retravailler le tronc commun et d'amener les enfants, en l'occurrence ici jusqu'à 15 ans, dans un même groupe, dans une même classe, et pouvoir à ce moment-là, à 15 ans, commencer à peut-être imaginer des choix d'orientation, ça nous semble tout à fait important. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le tronc commun qui est envisagé dans les travaux du pacte, il n'y a pas encore d'arbitrage politique, vous l'avez dit, donc rien n'est décidé, mais ce tronc commun est pensé comme un tronc commun pluridisciplinaire et polytechnique, c'est-à-dire qu'on réintroduirait dans le temps scolaire toute une série d'apprentissages qui en ont été exclus, et notamment des apprentissages artistiques, la question du sport, la question des aptitudes techniques. Et donc la journée d'école comprendrait les apprentissages classiques tels qu'on les conçoit aujourd'hui, maths, français, sciences, un petit peu de gymnastique quand on a le temps, mais serait complété par toute une série d'autres apprentissages qui contribueraient au développement global de l'enfant.
Donc ça, c'est clair que c'est des apprentissages qui aujourd'hui ne sont pas assez présents dans les programmes de cours, tous ces apprentissages donc artistiques, sportifs et autres.
Ils ont été progressivement supprimés de l'école. Ils existaient peut-être un peu plus il y a 10 ou 20 ans. Ils sont restés de manière marginale dans certaines écoles. Et on souhaiterait qu'ils y retournent d'une certaine manière.
Alors, une des choses qui découle de ce tronc commun, c'est le fait qu'il n'y aurait pas de redoublement possible avant 15 ans, donc avant effectivement la fin de la troisième, enfin jusqu'à la troisième secondaire. Ça, bonne ou mauvaise idée ?
Alors, il faut rendre justice aux travaux du pacte. Alors, souvent, dans la presse, on lit des raccourcis, on entend des raccourcis. Le pacte interdirait le redoublement jusqu'à 15 ans. C'est pas ce qu'il est écrit, c'est pas ce qu'il est proposé. Ce qu'il est proposé, c'est de prendre en charge les enfants à partir de 5 ans, de les accompagner le mieux possible à partir de 5 ans, en mettant en place de la remédiation, en mettant en place, quand nécessaire, un suivi individualisé, en essayant de dépister de manière le plus précoce possible les difficultés d'apprentissage, en différenciant peut-être un minimum aussi les moments d'évaluation, parce que dire que tous les enfants doivent lire à 6 ans, et puis à 7 ans ils doivent tous connaître leur table de multiplication, et puis à 8 ans, c'est comme si tous les enfants étaient faits de la même pâte et avaient tous les mêmes rythmes d'apprentissage. Donc coller un petit peu plus les rythmes d'apprentissage aux différences qui peuvent exister entre enfants, tout en s'assurant bien qu'à 15 ans, ils aient tous des compétences de base acquises. Et si toutes les choses sont mises en place, tous les accompagnements sont mis en place, normalement, le redoublement va diminuer.
C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment question de l'interdire, mais d'essayer de le diminuer au maximum.
C'est essayer de le rendre marginal. Il faut quand même rappeler qu'en Belgique, 50% des élèves à 15 ans ont déjà redoublé une fois. On est champion des pays de l'OCDE. On est plus fort que la France, on est plus fort que tous les pays de l'OCDE. Donc il faut quand même, et ça coûte énormément d'argent. On en est presque à 400 millions d'euros par an en coût de redoublement, alors que nous étions à 300 millions d'euros en 2009.
c'est quand même énorme. 10% du budget de l'enseignement passe dans le redoublement. On peut déjà imaginer toutes les choses qu'on pourrait faire avec ce budget en termes d'accompagnement des enfants pour éviter qu'ils redoublent précisément.
Alors, on a cité quelques éléments qui sont sortis dans la presse, mais est-ce que, Benoît Werner Merschen, il y a d'autres points dans le pacte qui vous semblent importants à relever, des choses qui ne sont pas nécessairement sorties ces derniers jours, mais sur lesquelles il faudrait vraiment insister?
Alors, ça me paraît évident que... Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les propositions affluent, fruit d'un long processus de discussion au sein de multiples groupes de travail. Mais malgré tout, il va falloir faire des choix. Et c'est compliqué parce qu'il faut faire des choix parce que politiquement, budgétairement, il n'y a pas moyen de tout faire directement, alors qu'en réalité, tout se tient. Donc ce seront des choix compliqués parce que très souvent un aspect qui a été évoqué par le pacte a des incidences sur un autre. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce qui me paraît important pour prévoir au mieux l'avenir, c'est tout ce qui a été prévu en termes de pilotage. Moi, je reste avec une frustration par rapport à ce pacte. Vous entendez qu'on est plutôt positif de manière générale, parce qu'effectivement, ce qui est sur la table rejoint ce qui était les revendications du CAL, sauf une, à savoir l'idée d'une... On sait bien que ce qui pollue pour l'instant notre enseignement, c'est cette concurrence exacerbée entre réseaux, et nous voudrions un réseau public unifié, alors que la déclaration de politique communautaire parlait d'un pacte qu'elle examinait sans tabou. Toutes les questions, celle-là a été malheureusement occultée. Bah, c'était peut-être inévitable vu la composition de ce gouvernement. Néanmoins, je pense que avec le groupe de pilotage qui insiste très fort sur la dynamique entre autonomie d'une part, mais responsabilisation aussi, il y a peut-être moyen, parce qu'il prévoit en termes de logique de contractualisation, d'arriver à gommer un peu ces différences. Ça, je pense que c'est un élément très, très important. L'autre élément qui me paraît essentiel, c'est tout ce qui concerne la formation des enseignants. Imaginer une réforme de l'enseignement sans impliquer les acteurs, sans valoriser ceux-ci, évidemment, c'est un leurre.
Oui. D'ailleurs, sur la question du pilotage, on peut peut-être revenir un peu plus en détail là-dessus, Johanna de Villers. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a des choses positives? Effectivement, on vient de le dire, mais qu'est-ce qu'il y a concrètement?
Effectivement, alors j'irai même un petit peu plus loin que ce que Benoît vient d'expliquer par rapport au pilotage. Effectivement, dans les revendications du Centre d'Action Laïque, nous demandons la création d'un réseau public unifié. On sait bien qu'on n'y est pas, on sait bien que...
C'est le fameux tabou
qui n'a pas été mis sur la table. Mais cela dit, effectivement, dans les propositions faites en matière de pilotage, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui plaident en faveur d'un rapprochement entre réseaux, ce qui pourrait déjà constituer une première étape. Et ce qui est intéressant, c'est l'idée d'un pilotage beaucoup plus local. Donc il y aurait une structure macro qui piloterait, donc au niveau de la fédération, puis des zones scolaires, et puis encore un niveau plus local où des établissements, ce serait 3, 4, 5 établissements, travailleraient ensemble en pilotage en interréseau et définiraient des objectifs communs. Ça se fait déjà en Flandre via les LOP, donc les plateformes de concertation locale, où par exemple on se répartit quelque part de manière équitable la mixité. Donc il n'y a pas de mixité quand d'un côté il y a une école avec 90% d'écoles à indice socio-économique faible et de l'autre côté 10%. Et donc dans ces regroupements d'écoles, on pourrait imaginer de travailler ensemble et dire l'objectif ensemble, c'est de prendre 40% d'élèves en difficulté dans chaque établissement, plutôt qu'il y en ait 10% là, 90% là, 50% ailleurs. Et donc, ça a été envisagé dans les travaux du pacte, en interréseau.
Oui, c'est ça. Donc, c'est bien le point important, c'est en interréseau.
Voilà. Que chacun prenne sa part des difficultés, chacun prenne sa part de responsabilité par rapport aux enjeux énormes qu'affronte l'école aujourd'hui.
Alors, on va continuer à parler des mesures qui sont proposées, qui sont sur la table, en tout cas de ce pacte pour un enseignement d'excellence. Mais je vous propose de faire une petite pause musicale. On va écouter Jacques Brel avec une chanson de circonstance, Rosa.
« C'est le plus vieux tango du monde, celui que les têtes blondes annonnent comme une ronde en apprenant leur latin. C'est le tango du collège qui prend les rêves au piège et dont il est sacrilège de ne pas sortir malin. C'est le tango des bons pères qui surveillent l'œil sévère, les Jules et les Prospères qui seront la France de demain. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des forts en thème, buitonneux jusqu'à l'extrême, et qui recouvre de laine leur cœur qui est déjà froid. C'est le tango des forts en rien, qui décline de chagrin, et qui seront pharmaciens parce que papa ne l'était pas. C'est le temps où j'étais dernier, car ce tango rosa rosé, j'inclinais à lui préférer déjà ma cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango des promenades, de parcelles sous les arcades, cerclées de corbeaux et d'alcades qui nous protégeaient des pourquoi. C'est le tango de la pluie sur la cour, le miroir d'une flaque sans amour, qui m'a fait comprendre un beau jour que je ne serais pas Vasco de Gama. Mais c'est le tango du temps béni, ou pour un baiser trop petit, dans la clairière d'un jeudi, à Rosie, cousine Rosa. Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosas, rosarum, rosis, rosis. C'est le tango du temps des héros, j'en avais tant des minces, des gros, j'en faisais des tunnels pour Charlot, des auréoles pour Saint-François. C'est le tango des récompenses, quel est à ceux qui ont la chance d'apprendre dès leur enfance tout ce qui ne leur servira pas. Mais c'est le tango que l'on regrette une fois que le temps s'achète et que l'on s'aperçoit tout bête qu'il y a des épines au rosa. Rosa, 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 rosa.
C'était donc Jacques Brel avec Rosa. Vous êtes toujours dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. On parle enseignement. Aujourd'hui, on parle du pacte pour un enseignement d'excellence, dont les premiers éléments sont sortis dans la presse cette semaine. Et donc, on en parle avec Benoît van der Meerschen, secrétaire général adjoint du Centre d'Action Laïque, et Johanna de Villers, qui est chargée de mission au CAL. Je le disais juste avant la pause, il y a encore d'autres points importants dans ce pacte. C'est notamment la formation des enseignants. On parle d'une formation qui serait masterisée, donc on aurait une formation de 5 ans au lieu des 3 ans actuels. Pour vous, c'est une bonne piste? C'est quelque chose qui était important?
Alors tout à fait, oui, c'est fondamental. Là, nouveau, on est dans les comparaisons internationales, mais on est quand même le dernier pays d'Europe, avec la Pologne, à avoir une formation initiale en 3 ans, avec à côté des résultats qui sont quand même très très faibles. Donc effectivement, il doit y avoir quelque chose à faire au niveau de la formation, sans vouloir dire que la formation n'est pas bonne, mais elle pourrait être améliorée, on pourrait mieux accompagner les enseignants qui ont quand même des défis énormes à rencontrer aujourd'hui. Et donc, oui, masteriser la formation, donc la rendre obligatoire jusqu'à 5 ans, je pense que c'est donner des chances à tout le monde de mieux travailler pour les enfants, pour les enseignants. Voilà. Alors... c'est aussi intéressant pour les enseignants qui sont dans la carrière. Quand ils ont un bachelor, ils sont un petit peu coincés dans leur carrière. Tandis qu'un master permettrait de leur ouvrir plein d'autres portes aussi. Donc je pense que c'est une réforme fondamentale. C'est une réforme qui coûte très très cher. Donc il va falloir faire de gros arbitrages. Mais je pense que c'était de toute façon dans la déclaration de politique communautaire. C'est une revendication qui est portée dans le pacte de manière un petit peu parallèle parce que c'est une compétence de Marcourt, donc l'enseignement supérieur. Mais voilà, je pense que c'est fondamental.
Oui, avec aussi de la formation continue. Pour vous, Benoît van der Merschen, la réforme de l'enseignement doit obligatoirement passer aussi par ce rôle des enseignants et cette formation des enseignants, cette amélioration de la formation.
Tout à fait. Je ne peux que répéter ce que j'ai dit, à savoir que c'est illusoire d'imaginer réformer l'enseignement sans les acteurs. Autant, je pense que le processus du pacte pour un enseignement d'excellence est un processus intéressant puisque vous l'avez indiqué, qui était autour de la table, qui représente les parents, les pouvoirs organisateurs, les syndicats. Maintenant, je pense, quand on voit ce qu'il y a comme fuite dans la presse, que tous les professeurs, là où ils sont, dans leur classe, ne sont pas informés, et donc ils peuvent légitimement se poser des questions. Il y aura donc, de la part des acteurs du pacte aujourd'hui, et sans doute de ce gouvernement, un gigantesque travail d'information à faire, parce que y a rien à... Allez, si on est dans cette habitude au travail, c'est très bien. Dès qu'on arrive avec des projets de changement, ça peut parfois effrayer, alors que on peut peut-être sur le fond être d'accord. Donc je pense qu'une correcte information de tout ce qui est dans le pacte aujourd'hui doit rapidement être faite vis-à-vis des enseignants, des parents, de manière à ce qu'on ne passe pas capoter un processus qui est quand même plutôt intéressant aujourd'hui.
Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces propositions, donc elles sont sur la table. Le groupe central va donc remettre un rapport au gouvernement ce mardi 3 mai. Mais ensuite, ce sera au rôle du gouvernement de départager, de faire des arbitrages, de décider quelles sont les priorités. Et pour vous, là, il faut vraiment que le gouvernement fasse les bons choix, j'ai envie de dire.
Oui, et donc c'est peut-être là où c'est un peu embêtant quand on a des fuites dans la presse comme cela, puisque, comme vous l'avez dit, chacun des acteurs, syndicats et autres, devait rendre un avis pour la semaine prochaine. C'est évident que tout le buzz médiatique va peut-être crisper les positions des uns et des autres, alors qu'il faut peut-être justement arriver à dépasser certains antagonismes ou des positions figées. Mais maintenant, lorsque les choix devront être faits, parce qu'il n'y a pas les moyens de tout faire dans ce qui a été proposé par le pacte, c'est peut-être à ce moment-là que les couteaux vont sortir et que les crispations vont être là. Mais c'est une... Allez, on sait bien que l'école ne peut pas tout dans notre société, mais elle a quand même un rôle essentiel à jouer et certainement de préparer l'avenir. On est quand même dans un monde où de plus en plus on a l'impression qu'on est sans repère et où on voit pas mal de jeunes qui restent en marge de la société. Je pense qu'aujourd'hui il est plus que temps d'en prendre conscience et de leur donner à chacun des chances équivalentes pour pouvoir justement se construire un avenir dans une société démocratique apaisée. Si nos politiques aujourd'hui ne se rendent pas compte de cet enjeu, à ce moment-là c'est vraiment à désespérer de tout. Et je vous avoue que parfois vu de l'extérieur il y a des choses qui peuvent paraître totalement incompréhensibles. J'ai pas joué aux populistes de bas étage parce que je sais que les niveaux de pouvoir sont différents. Mais c'est vrai que imaginer dépenser 15 milliards d'euros pour des F-16 et en même temps compter ses sous pour l'enseignement, vu de l'extérieur, ça paraît un peu absurde quand même.
Alors, s'il y a des enseignants qui nous écoutent, il faut les rassurer sur certains points. S'il y a des parents qui nous écoutent, une des choses qui les a peut-être interpellés dans les fuites, c'est la question des congés. On parle de plus de congés scolaires, on parle aussi d'allongement de la journée pour les élèves. Là-dessus, est-ce que vous pensez que les pistes qui sont sur la table, Johanna de Villers, sont des bonnes pistes?
Alors je pense effectivement que, nouveau, il faut rappeler que ce sont des pistes et rien n'est encore décidé, les arbitrages n'ont pas encore été faits. Par rapport au congé scolaire, ça je pense que c'est une chose qui devrait avoir eu lieu depuis des années en Belgique, en communauté française. On allait vers une déconfessionnalisation des congés scolaires pour qu'ils collent plus au rythme d'apprentissage, au rythme biologique des enfants. Donc on arrive aujourd'hui à des situations absurde parce qu'il faut faire coller les congés scolaires aux fêtes religieuses. Donc les enfants vont avoir cours 8 semaines, puis congé une semaine, puis avoir cours 3 semaines, puis congé 15 jours. Ça ne va pas. Il faut harmoniser tout ça. Il faut rendre ça plus régulier sur l'année. Donc l'idée, c'est 7 semaines de cours, 15 jours de congé, 7 semaines de cours, 15 jours de congé, comme ça se fait en France ou dans d'autres pays. Je pense que c'est tout à fait positif. Par rapport à l'allongement de la journée scolaire, il faut peut-être tordre le cou aux fantômes, aux fausses rumeurs qui tournent. C'est une discussion. Alors, on a entendu la journée d'école jusqu'à 17h. C'est pas encore ça qui a été décidé. L'idée, globalement, c'est de faire commencer l'école à 8h30. Plus à 8h, 8h05, 8h15, 8h30 pour tous les enfants. Et de l'allonger pour y intégrer les études gratuites, éventuellement du parascolaire, et ces fameux apprentissages pluridisciplinaires dont on parle aussi dans le tronc commun. Et donc tous les enfants, quel que soit leur milieu, quelles que soient les activités professionnelles de leurs parents, puissent bénéficier dans l'école d'un apprentissage global. Pourquoi la culture, pourquoi le sport, pourquoi le théâtre serait réservé à un nombre minoritaire d'enfants dont les parents ont les possibilités de payer ces activités ou de les conduire à ces activités. Et donc, une des pistes envisagées, mais ce n'est qu'une piste, c'est de ramener du parascolaire dans le temps scolaire. Alors, il n'a pas encore été décidé que ce serait jusqu'à 4 heures, jusqu'à 5 heures, jusqu'à 4 heures et demie, parce qu'il ne faut pas non plus que l'école se mette au service du monde du travail. Tout ça a été évoqué aussi dans les groupes de travail. Donc, on n'est pas dans une logique adéquationniste où il faut absolument que les enfants soient comme les parents qui travaillent à temps plein de 8h à 17h30 tous les jours à l'école. Mais c'est vraiment penser au développement global de l'enfant, et cela pour tous les enfants.
Oui, avec cette idée effectivement de réduire les inégalités sociales aussi.
Et en mettant le travail extrascolaire dans ce temps-là pour tous les enfants, parce qu'on sait très bien que ramener les devoirs à la maison, ça renforce les inégalités et donc le redoublement. Et donc, c'est pas quelque chose de positif pour la société dans son ensemble.
Alors, sans être trop technique, un mot maintenant sur l'avenir, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous attend ? Quelles sont encore les différentes étapes de ce pacte pour un enseignement d'excellence ? Et quand les personnes pourront vraiment être concernées ? C'est-à-dire quand est-ce que les premières mesures vont tomber, à votre avis ?
Les grandes orientations politiques vont être débattues maintenant au mois de mai pour une première fois en gouvernement, reviendront vers les acteurs du pacte. On nous avait dit que les premières décisions, orientations, choix tomberaient en juillet. De ce que j'ai pu lire de Madame la Ministre, ce serait plutôt pour le mois de septembre. Il est évident qu'il ne faut pas non plus traîner, parce que dès qu'on approchera des élections communales d'octobre 2018 et puis des élections régionales 2019, les choses vont sans doute un petit peu se crisper. Et donc l'année 2017 pour la mise en œuvre du pacte sera absolument essentielle. Et l'idée, quand même, répétons-le, c'est d'avoir une école qui soit un peu en phase avec le monde de 2016, rapide, imprévisible, et qu'on en donne un bagage qui soit convenable pour tous les jeunes candidats au voyage vers le futur, hein, parce qu'on peut se rappeler, hein, l'école c'est quand même le lieu où on apprend ce que l'on ignore pour pouvoir, le moment venu, se passer de maître, être autonome, quoi.
Ça, c'est une belle conclusion pour cette émission sur l'enseignement. Je voudrais quand même juste terminer l'émission sur un tout autre sujet, on va dire, vraiment sans transition, parce que le Centre d'Action Laïque a lancé cette semaine une pétition, donc, je vous le disais, qui aborde un tout autre sujet, c'est la question de l'avortement. Alors, le titre de cette pétition, c'est « Oui à un accompagnement des femmes qui subissent une fausse couche, mais non à un statut de personne pour le fœtus. Préservons le droit à l'avortement en Belgique. » Alors, pourquoi cette pétition, Benoît van der Merschen?
Parce que nous sommes dans une situation effectivement très particulière et débattue maintenant depuis des mois au Parlement des propositions de loi sur un statut à donner à l'enfant né sans vie, et on peut imaginer quel drame ce doit être pour des femmes et des familles entières. Et donc la question, c'est que les projets qui sont sur la table aujourd'hui visent à, pour accompagner ce deuil, à imaginer la délivrance potentielle d'un acte de naissance. Alors moi, je ne suis pas sûr qu'un acte officiel ça suffise pour faire un deuil, il y a d'autres choses qui sont prévues, mais le danger c'est que ici délivrer un acte de naissance, qui est quand même un élément important de la personnalité civile, c'est donc quelque part donner un statut de personne à un fœtus avec des limites dans le temps qui ne sont pas encore précisées, et donc faire coexister par exemple la possibilité de donner un acte de naissance à un fœtus, certains disaient même un jour après la conception, on est un peu plus loin maintenant, faire cohabiter ce type de possibilité d'acte de naissance avec une législation sur l'IVG, ça paraît un peu absurde. Et donc l'attaque est frontale contre l'IVG aujourd'hui, dans un contexte où on entend quand même certains politiques, au-delà de cette question spécifique, venir en demandant une réforme de la loi sur l'euthanasie, demander qu'on inscrive le droit à la vie dans la Constitution. Donc je pense que ce que l'on croit peut-être acquis est toujours en danger.
Mais du coup, je vous invite en tout cas à aller consulter la position du Centre d'Action Laïque sur ce sujet et à signer, si vous le désirez, cette pétition. Alors donc, pour signer cette pétition, vous pouvez vous rendre sur le site internet du Centre d'Action Laïque, www.laïcité.be, donc www.laïcité.be. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés donc, sur ce sujet d'enseignement, donc sur ce pacte pour un enseignement d'excellence. On ne manquera pas de revenir évidemment sur ce sujet dès que les premières décisions tomberont. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous.